Les premières indications d'une activité de l'ennemi sont devenues évidentes dans le courant de l'été. L'ennemi attaquait de plus en plus souvent, et de plus en plus souvent pendant les fins de semaine et pendant les jours fériés. Vers la fin de l'été, l'armée avait réussi à décoder les messages secrets de l'ennemi. Et de cette manière-là, les communications que l'ennemi faisait avec ses propres troupes étaient décodées et on pouvait savoir quelles étaient leurs stratégies et leurs objectifs. À la fin de l'été, le dossier qui contenait tous ces renseignements décodés était devenu énorme. On l'avait appelé magique. Un énorme dossier qui contenait toutes les indications qu'on avait volées à l'ennemi au travers des messages décodé. Et le 26 novembre, il était devenu évident que l'ennemi allait attaquer bientôt. C'était clair, les informations étaient précises là-dessus. On ne savait juste pas quand et où il allait frapper. Le samedi 6 décembre, au soir, il y avait une fête de la fanfare militaire à Honolulu. Et là, on avait organisé un banquet, les militaires étaient là, et avant que la fête ne commence, plusieurs militaires dégradés étaient là, inquiets, parlaient entre eux à propos d'un coup de téléphone qui avait été fait par un journaliste au Japon et qui avait appelé un Japonais qui habitait Honolulu. Ils avaient parlé au téléphone des bateaux qui étaient dans le port. Ils avaient parlé du temps à ce moment-là sur la ville. Ils avaient parlé aussi des fleurs. Cette communication téléphonique avait été enregistrée par le service d'espionnage. Et cette conversation était curieuse. Pourquoi avait-il donc besoin de parler des bateaux dans le port? Pourquoi avait-il besoin de parler du temps sur la ville à ce moment-là? Et les fleurs, qu'est-ce qu'elles avaient à faire là-dedans? Alors ces officiers militaires discutaient de cette conversation qui avait été enregistrée, et essayaient de comprendre comment ces éléments se plaçaient dans la grande image de ce conflit entre le Japon et les États-Unis. Et puis, la fête a commencé, les femmes sont venues prendre leurs maris officiers gradés, ils sont rentrés dans la salle, la fête a continué, et la conversation ne s'est jamais achevée. Le dimanche 7 décembre 1941, à 3h45 du matin, le réveil a sonné dans la chambre de George Eliot et de Joseph Lockhart. C'étaient les deux soldats qui devaient prendre la relève de garde à un certain radar qui était à cet endroit-là. À 4h, ils devaient prendre leur service. Il y avait sur l'île, en fait, 5 radars. Et de cette manière-là, ils arrivaient à couvrir l'horizon entier. Ils étaient, eux, de garde à l'un de ces radars-là. Ils se sont levés, ils se sont préparés et installés à leur poste de service à 4h du matin. Ils étaient de veille de 4h jusqu'à 7h du matin sur ce radar en particulier. Évidemment, à 4h, il ne se passait pas grand-chose. Peu d'activité, c'était la nuit. Donc c'était très calme et très paisible. À 6h45, ils reçoivent une indication de Fourth Chapter qui leur dit qu'ils peuvent arrêter le radar pour aller prendre le petit déjeuner. En réalité, Fourth Chapter était l'endroit où ils centralisaient toutes les informations des 5 radars de l'île pour avoir une image globale de ce qui se passait en mer. Et on leur a dit, pouvez arrêter le radar, il ne se passe rien de particulier. Le petit déjeuner, eh bien, il fallait attendre que le bus fasse le tour de différents postes, ramasse les soldats, les emmène aux messes où ils prenaient leur repas et ils étaient ensuite de nouveau redistribués à leur poste de service. Maintenant, comme le bus tardait à venir, George Eliot a proposé à son ami Lockhart de laisser le radar en route pour qu'il puisse lui s'entraîner un petit peu à manœuvrer cet instrument qu'il ne connaissait pas bien, sous la surveillance de Lockhart qui lui connaissait cet appareil beaucoup mieux que lui. Ils ont donc laissé le radar en route et Eliot s'est entraîné à manipuler cet instrument très sophistiqué sous la surveillance de son ami. À 7h02, Eliot voit sur l'écran de son radar une tache. Il appelle son ami Lockhart pour regarder ce que c'est, et Lockhart dit « Oh, ça, c'est pas grand-chose. » Mais comme ils étaient en train d'apprendre à manipuler l'appareil, ils ont continué à chercher, à regarder. Assez rapidement, Lockhart s'est rendu compte que cette tache correspondait à un groupe d'environ 50 avions qui se trouvaient à une distance de 137 milles au nord-est de là où ils se trouvaient. À cause de cela, ils ont transféré l'information à Fourth Chapter pour savoir ce qu'il fallait faire et pour qu'ils puissent confirmer ou infirmer ce dont il s'agissait. À 7h15, les avions en question étaient à 92 miles de l'endroit où ils se trouvaient et on savait qu'ils volaient à 180 km/h. À Fourth Chapter, il y avait de garde un pilote. Un pilote qui s'appelait Taylor. Et Taylor, qui était un pilote, n'aimait pas beaucoup rester les pieds par terre. Lui, il aimait bien voler, mais il était là de garde. Il a reçu l'information, il a regardé ça. Et il a dit, écoutez, je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Le porte-avions Enterprise est en mer et ils font régulièrement des exercices de vol à partir de ce porte-avions. De plus, le système radio a été branché toute la nuit. Et il explique, lorsque le système de radio est branché toute la nuit, ça veut dire qu'il y a des avions qui font l'aller-retour entre la Californie et Hawaï, de manière à pouvoir garder contact avec eux, à les guider, on laisse la radio en route constamment. Cette nuit-là, il n'y avait pas eu d'indication particulière, d'alarme particulière. Donc Taylor leur a dit, ne vous inquiétez pas, ne vous alarmez pas, ce sont des exercices qui sont faits, tout va bien. À 7h25 du matin, les avions étaient à 62 miles de là. À 7h30, les avions étaient à 47 miles de là. À 7h39, les avions étaient à 22 miles de là. Et ils sont sortis de l'écran parce qu'ils étaient devenus trop proches. Et puis voilà que le bus arrive pour les prendre au petit déjeuner. Ce qui fait que Eliot et Lockhart ont arrêté l'écran et arrêté le radar à 7h45 du matin. À 7h53, le dimanche 7 décembre 1941, la première bombe tombait sur Pearl Harbor. 2 heures plus tard, lorsque l'attaque était terminée, 18 bateaux avaient été détruits ou gravement endommagés. De ces 18 bateaux, 8 étaient des bateaux de guerre de grande importance. 188 avions ont été détruits. 159 autres avions ont été endommagés, étaient rendus inutilisables. Et 2403 soldats et militaires avaient perdu la vie dans cette attaque. On est impressionné dans cette histoire en particulier de voir à quel point les indications avertissant d'une attaque de l'ennemi étaient nombreuses. Des mois à l'avance, l'espionnage avait rassemblé des éléments innombrables leur donnant des indications précises sur ce que l'ennemi allait faire. Ils avaient décodé ces messages. Ils avaient remarquez quelle était l'habitude d'attaque que l'ennemi avait prise. Pendant les fins de semaine, pendant les jours fériés. Ils avaient été plus que prévenus, ils étaient informés. Ce jour-là, plusieurs indices très clairs auraient dû attirer leur attention, que ce soit le coup de téléphone, que ce soit cette tâche qui arrive droit vers eux, 50 avions sur un radar. Et malgré cette énorme quantité d'informations, d'indices, on a l'impression que tout le monde a été pris par surprise. La perte a été importante. Et on s'étonne en se disant, mais enfin, pourquoi donc n'ont-ils rien vu? Les parents qui sont assis ici peuvent imaginer un petit peu ce que l'on veut dire. Combien de fois est-ce qu'il a fallu répéter et répéter aux enfants ce qu'on veut leur dire pour que, enfin, ils le comprennent? Ça vous est pas arrivé de leur dire, mais est-ce qu'il faudra que je te répète les choses 100 fois pour que ça rentre? Ça vous dit rien, ça? Jésus s'est retrouvé dans une situation très semblable à son époque. Une situation d'ailleurs extrêmement frustrante parce que, depuis des milliers d'années, lui-même avait transmis aux prophètes de son peuple des avertissements, les oracles de Dieu, les prophéties. Pendant un nombre incalculable d'années, Dieu avait agi d'une façon directe dans son peuple pour avertir de la venue du Messie, du Sauveur. Jésus vient. Des païens viennent demander aux autorités religieuses où Jésus doit naître. Et ils sont même capables de dire par la prophétie où il doit naître. À Bethléem. Mais Jésus est là. Il n'est pas reçu. Et la seule chose que l'on trouve à faire avec lui, c'est de le mettre sur la croix pour s'en débarrasser le plus vite possible. Et on s'étonne que, après tant d'années d'avertissements, tant de prophéties, tant de prophètes qui leur étaient envoyés pour les interpeller, le peuple de Dieu n'ait rien vu. Et on pourrait être tenté de se dire, oui, mais enfin, c'était des Juifs, ils avaient la tête dure, que voulez-vous, peut-être que nous, on aurait réagi autrement. Je ne sais pas, parce que Jésus a eu le même problème avec ses disciples. C'est-à-dire ceux qui, dans ce groupe de gens hyper avertis, ceux qui ont accepté que Jésus soit le Messie, les disciples, eux-mêmes entendaient, mais ne comprenaient pas. Ça me rappelle ce passage de l'évangile de Matthieu, chapitre 13, où Jésus parle justement de son peuple. Non pas des peuples païens, de son peuple. Et il dit dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 13, et au verset 14, Évangile selon Matthieu, chapitre 13, verset 14, il est écrit ceci. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. Ils entendent, mais ils n'entendent pas. Ils voient, mais ils ne voient pas. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas le peuple qui depuis longtemps attendait le Messie? Est-ce que les disciples n'étaient pas ceux qui depuis longtemps soupiraient après la venue du libérateur? Ils entendent, n'entendent pas. Ils voient, ils ne voient pas. La situation a probablement dû être encore plus frustrante avec les disciples qui ont reproduit le même comportement. J'aimerais regarder cela avec vous dans l'évangile selon Marc, où l'on trouve dans les premiers chapitres de cet évangile plusieurs illustrations de cela. Dans l'évangile selon Marc, au chapitre 8. Évangile selon Marc, chapitre 8. Juste avant le passage que nous voulons lire, Jésus s'était adressé aux disciples et leur avait posé cette question. Qu'est-ce que les gens disent de moi ? Et ils avaient répondu abondamment en répétant ce qu'ils avaient entendu. Puis Jésus leur avait dit, oui, mais vous maintenant, qu'est-ce que vous pensez de moi ? Et ils avaient répondu, Pierre en premier, vous vous souvenez bien, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, nous dit un autre évangéliste. Le message est clair et on sait que quand Pierre ouvre sa bouche, il le fait pour tous les autres. Ça. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Profession de foi fantastique. Fantastique. Et devant cette réponse des disciples, Jésus continue à les instruire. Verset 31. Évangile selon Marc, chapitre 8, verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens et les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Il avait félicité Pierre quelques instants plus tôt pour cette profession de foi audacieuse, dans une société qui n'acceptait pas Jésus comme le Messie. Pierre dit, « Tu es le Christ, bravo !» 2 minutes après, il lui dit, « Retire-toi, Satan !» Ça, ce n'est pas un compliment exactement. On voudrait entendre, et on parle toujours des belles paroles que Jésus nous donne comme paroles d'encouragement, les promesses que Jésus... Et on s'imagine le Christ se penchant sur nous, nous donnant ses promesses, etc. On n'est pas tellement enclin à imaginer le Christ se penchant vers nous et disant, « Arrière de moi, Satan !» Hors d'ici. Je ne suis pas sûr qu'on serait très à l'aise. Et pourtant, il nous est dit dans les versets précédents que Jésus a commencé à les instruire en leur disant « Le Fils de l'homme doit souffrir, il doit être rejeté par tous les chefs religieux. Il va être mis à mort et il va ressusciter 3 jours après. » Et le texte, comme pour nous montrer ce dont il est question, que nous n'ayons aucun doute, Marc rajoute, il leur disait ces choses ouvertement. Jésus n'est pas en train de parler en parabole, Jésus n'est pas en train de parler en symbole, Jésus n'est pas en train d'imaginer une histoire pour essayer de cacher son langage pour que tout le monde ne le comprenne pas. Jésus leur parle ouvertement. C'est clair. « Je vais être rejeté, je vais mourir, dit-il, je vais ressusciter 3 jours après. » Est-ce que c'est clair ? Ni parabole, ni symbole. Pierre s'approche de lui et dit, « Écoute, Seigneur, tu déprimes, ça suffit, tu arrêtes de penser à des choses comme ça, voyons. Secoue-toi un petit peu. » Et c'est là qu'il reçoit ce compliment de Jésus, « Hors d'ici, Satan. » Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont des pensées d'homme. Bon, vous imaginez Pierre qui part de là, la queue entre les jambes. Retire-toi de moi, Satan. Je suis impressionné de voir que Jésus, là, va leur parler ouvertement, clairement, sans symbole ni détour. Et ça va lui valoir une réprimande de Monsieur Pierre. Il se prenait déjà pour un pape, celui-là. Un peu plus loin, dans le même évangile, au chapitre 9, nous allons lire le verset 9. Juste avant, se trouve un événement que nous connaissons bien, que nous appelons la Transfiguration, où Jésus était monté sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Et vous vous souvenez de ce qui s'était passé sur cette montagne de la Transfiguration. Un événement tout particulier qui annonçait la gloire du Christ avant son humiliation extrême. Et puis, il est dit au verset 9, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par ressuscité des morts. Ils ont entendu, leurs oreilles aperçues. Jésus leur a dit, ne parlez pas de ces choses-là jusqu'à ce que la résurrection dont je vous ai parlé arrive. Et les disciples sont là derrière Jésus en se demandant, ressusciter des morts, mais de quoi il parle? Qu'est-ce que c'est que cette résurrection des morts? Et vous imaginez les disciples qui, entre eux, comme nous dit le texte, discutent pour savoir de quoi est-ce qu'il parle, ressusciter des morts. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un peu plus loin, dans le même passage, lorsque tous les disciples vont être rassemblés, ils vont être confrontés à cet échec. On a amené un démoniaque, et voilà que les disciples qui étaient restés là ne peuvent pas chasser ce démon. Pour eux, c'est une nouveauté parce que Jésus les avait envoyés avec sa puissance. Ils étaient allés, vous vous en souvenez. Et ils avaient accompli des miracles, ils avaient guéri des gens, ils avaient chassé des démons. Ils s'étaient presque habitués à cette puissance que le Seigneur Jésus leur avait donnée. Et voilà que tout d'un coup, ça ne marche plus. Ils ont perdu le truc. Alors Jésus arrive et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça marchait avant, puis voilà maintenant que ça ne marche plus. Et Jésus, frustré, exprime sa frustration devant ce peuple dont la foi, et même celle des disciples, fait défaut quand c'est nécessaire. Le contexte est intéressant parce que nous nous souvenons que la raison pour laquelle les disciples n'avaient pas réussi à accomplir ce miracle vient du fait que ils avaient vu partir Jésus avec Pierre, Jacques et Jean. Et ils avaient regardé ça avec un esprit de jalousie. Pourquoi est-ce qu'il prend ces trois gaillards-là, puis nous, on doit rester derrière, nous. Les trois chouchous-là, Pierre, Jacques et Jean. Et puis nous, derrière, on doit aller chasser les démons, on doit faire tout le sale travail, quoi. Ils étaient restés en bas de la montagne avec cet esprit qui n'est pas l'esprit de service, mais qui était un esprit de jalousie, d'orgueil, d'ambition, et d'incompréhension de ce que Jésus était en train de faire, parce que pourquoi est-ce qu'il prend cela, et nous alors? Est-ce qu'on est moins que ces trois-là? À tel point que, devant la difficulté, ils n'ont pu chasser les démons par la puissance de Dieu qu'ils n'avaient plus. Mais ce n'est pas le tout, un peu plus loin, dans le même chapitre, au verset 31. Marc chapitre 9, verset 31. Il est dit, « Car il enseignait ses disciples et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. » Et trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. trois fois en peu de temps, Jésus leur parle ouvertement, déclarant clairement qu'il va être rejeté, qu'il va être mis à mort, qu'il va ressusciter. Le message est clair, il est répété à plusieurs reprises. Il attire leur attention, ils sont même capables d'en parler, de se questionner sur ce que Jésus est en train de leur dire. Mais Marc précise, ils ne comprenaient pas cette parole. Et on se pose la question, mais enfin, comment est-ce possible? Jésus leur dit, ce n'est pas qu'il a commencé à leur parler de choses qu'ils ne connaissaient pas. Il a dit, répétez, répétez encore, je vais être mis à mort par ces gens-là. Okay. Une deuxième fois, ces gens-là vont me mettre à mort. Trois jours après, je ressuscite. Ah. Et une troisième fois, il en parle, en peu de temps. C'est toujours pas intégré. C'est toujours pas rentré. C'est toujours pas compris. Mais enfin, ce ne sont pas des païens, ce ne sont pas des étrangers, ce ne sont même pas des gens du peuple qui ont refusé Jésus. Ce sont les disciples, ceux qui marchent avec lui tous les jours, qui dorment avec lui, qui vivent avec lui. Non. Ils entendent. Mais ils n'entendent pas. Ils voient, ils ne voient pas. Il y a une sorte de fermeture de l'esprit et qui est troublante, qui est tout aussi troublante que dans l'histoire que nous avons regardée en commençant, une histoire de guerre où tous les avertissements étaient là et aucune attention n'a été portée à ces informations-là. Tout aussi inquiétante parce que le peuple hébreu avait reçu ces informations longtemps à l'avance. Et lorsque Jésus est venu, ils n'ont pas reconnu. Inquiétant parce que les disciples entendent de Jésus lui-même un message clair, ça ne passe pas. Et la question peut se poser en ce qui nous concerne. Nous sommes aussi les disciples. Nous l'entendons, nous parlons de lui, et on se pose la question de savoir est-ce que ce que Jésus a l'intention de nous dire est véritablement rentré? Est-ce que ça a été intégré? Ou est-ce que c'est resté comme les disciples qui sont capables d'en parler, capables de se questionner, capables de faire leur école du sabbat autour de ce sujet-là, mais qui n'ont rien compris quand même? Dans Marc, chapitre 9, au verset 28, les disciples posent la question. Quand Jésus fut rentré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Et Jésus va leur donner une réponse. « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Mais le contexte va être beaucoup plus clair. Regardez un petit peu plus loin, au verset 33. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Vous imaginez la situation. Jésus marche avec ses disciples. Ils sont là autour de lui. Mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire parce que Jésus est là. C'est ennuyeux. Alors on va laisser Jésus marcher devant, et puis nous on va cueillir les fleurs, amasser un épi, comme ça on va pouvoir discuter le coup derrière et faire notre comité à nous. Et c'est moi le plus grand parce que c'est moi qui ai la bourse. Taratata, c'est moi parce que Jésus m'a pris avec lui sur la montagne de la trans... Oups, c'est vrai, je ne peux pas en parler. J'en dis non, c'est moi qui ai le plus d'avenir, je suis le plus jeune. D'ailleurs... Je suis le préféré. Vous les entendez les uns et les autres là? Ils ont tous des arguments solides et certains pourraient avoir des arguments frappants parce qu'il y a des zélotes. Les zélotes, ce n'étaient pas de doux petits agneaux. Ils savaient manipuler l'épée et raccourcir les gens si c'était nécessaire. Hein? Et vous avez là ces grands gamins qui discute pour savoir qui est le meilleur, qui est le plus grand, qui va être le premier ministre, qui va être le ministre des Finances, et Jésus marche devant. Et Jésus est tout seul. Il arrive, il rentre dans la maison et il les attend. Salut les gars, content de vous voir. Alors votre comité, qu'est-ce que vous avez fait? Le texte nous dit, ils ont gardé le silence. Parce qu'en réalité, ils cherchaient à savoir lequel d'entre eux serait le plus grand. On comprend alors qu'il n'ait pas pu chasser les démons. Et on comprend peut-être ce que Jésus a dit un petit peu plus tôt à Pierre. C'était au verset 33 du chapitre 8. Dans la version en français fondamentale, l'expression est très simple et claire. Jésus a dit, tu ne penses pas comme Dieu, mais tu penses comme les hommes. Tu ne penses pas comme Dieu, tu penses comme les hommes. Et c'est peut-être là le problème que nous autres chrétiens d'aujourd'hui pouvons encore avoir. Nous sommes bien informés sur la parole de Dieu. De la même manière que les gens de l'époque de Jésus étaient sans aucun doute les gens les plus informés dans le monde entier de l'époque sur les oracles de Dieu. Certains d'entre eux connaissaient des sections entières de l'Ancien Testament par cœur. L'information était complète, totale. Mais quand Jésus est là, cette information ne leur sert de rien parce que leurs yeux ont été empêchés de le voir. Les disciples semblent être dans une situation semblable parce qu'ils pensent comme des hommes et pas comme Dieu. Maintenant, je suis inquiet parce que nous connaissons les prophéties, nous attendons le retour de Jésus, nous enseignons les prophéties, nous les étudions d'ailleurs chaque semaine dans notre école du sabbat. Nous avons probablement une information largement supérieur à un grand nombre de croyants dans le monde. Et je me dis, mais enfin, allons-nous réagir de la même manière que les disciples lors de la première venue de Jésus? Qu'est-ce qui va nous empêcher de prendre au sérieux tous ces signaux d'alarme, tous ces signes des temps? Parce qu'en fait, les signes des temps, on les connaît, on les enseigne. On va même le dire aux gens, ah mais ça c'est un signe des temps. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le message a été intégré et que nous sommes prêts pour faire face à ces signes-là. Et j'ai peur en pensant de me retrouver dans la situation des disciples, qui sont prêts à marcher avec lui constamment, à parler de ce que Jésus a dit, et d'être incapables d'intégrer l'information que Jésus leur donne au point de changer dans leur vie ce qui doit être changé, de manière à être prêt pour les événements que Jésus a annoncés. Jésus a donné lui-même l'exemple de ce qu'il propose aux disciples. De ne pas avoir ce fonctionnement humain, mais d'avoir la pensée de Dieu. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, il nous est décrit le sacrifice de Jésus. Au chapitre 2, au verset 5, nous avons là une description de ce que Jésus a laissé. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 5. On retrouve là un écho de ce que nous avions dans l'évangile de Marc, où l'apôtre Paul dit, Philippiens, chapitre 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » On pourrait dire, pensez donc comme Jésus-Christ. Non pas comme les hommes, mais pensez comme Jésus-Christ. Et que faisait-il? Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Jésus n'avait pas besoin de s'accrocher à sa divinité, il l'avait, il l'était, divin. Mais pour venir dans ce monde remplir le rôle qu'il avait à remplir dans cette phase particulière du plan du salut, il fallait qu'il se dépouille, dit l'apôtre Paul, qu'il abandonne l'usage de sa divinité. Il a voulu devenir comme un vrai homme, comme un simple homme. Il a fait là déjà le sacrifice. Il a voulu être comme n'importe quel être humain. Il a, autrement dit, laissé toutes les prérogatives, les privilèges, les puissances et les pouvoirs de sa nature divine. Et il est venu comme un simple homme. Et l'apôtre Paul nous dit, pensez donc de la même manière que Christ. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ne pensez pas comme les hommes qui cherchent à être les premiers partout. Mais il dit au contraire, soyez animés de sentiments et de pensées qui étaient celles du Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de côté toute sa puissance. Maintenant, nous sommes invités à suivre cet exemple-là, comme vous vous souvenez, dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20, il est dit, vous connaissez ce texte, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Nous sommes invités à faire la même chose, à crucifier quelque chose en nous. Jésus a fait ce sacrifice pour pouvoir servir l'humanité. Et nous sommes invités aussi, nous-mêmes, à faire un grand sacrifice pour pouvoir servir notre Dieu. Le texte que nous lisions tout à l'heure dans l'évangile de Luc au chapitre 9 nous rappelle que ce sacrifice est un sacrifice de chaque jour. C'est le texte que nous avons lu tout à l'heure dans l'évangile de Luc au chapitre 9, au verset 23. Il est dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. » Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et dans ce sens-là, ce n'est pas quelque chose que l'on peut dire avoir fait une fois pour toutes. J'ai été baptisé, c'est liquidé, je suis maintenant un disciple de Jésus. Tout est rose. Le Seigneur nous invite à le faire chaque jour. Et c'est peut-être là la plus grande difficulté. Enfin, je ne pense pas que vous êtes tellement différent de moi. Qu'il renonce à lui-même. C'est précisément parce que ils n'avaient pas renoncé à eux-mêmes que ses disciples n'ont rien compris, n'ont rien vu lorsque Jésus leur a expliqué ce qui allait arriver. J'aimerais vous lire, si vous le permettez, un ou deux paragraphes que j'ai trouvé particulièrement pertinents à ce sujet-là. C'est l'amour de soi qui détruit notre paix. Tant que le moi est vivant, nous sommes continuellement prêts à le protéger des humiliations et des insultes. Mais lorsque nous serons morts et que notre vie sera cachée en Christ, nous ne prendrons pas l'indifférence ou les affronts à cœur. Nous serons sourds aux reproches et aveugles aux moqueries et aux insultes. À cause de quoi? Tant que le moi est vivant. Un autre passage que je trouve intéressant. Écoutez ceci. La nouvelle naissance est une expérience devenue rare à cette heure de l'histoire du monde. C'est pourquoi il y a tant de perplexité dans les églises. Nombreux, très nombreux sont ceux qui portent le nom de Christ, mais sont non sanctifiés et impurs. Ils ont été baptisés, mais ils ont été enterrés vivants. Le moi n'est pas mort et ne sont donc pas ressuscités à une vie nouvelle en Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule chose que l'on peut faire sur une croix, c'est mourir. C'est ce qu'on est invité à faire. Celui qui veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Autrement dit, faire mourir cette nature que nous avons pour que nous puissions entendre, intégrer, recevoir la pensée et la parole de Dieu. Maintenant, lorsque l'on parle de résurrection, là encore, il n'y a qu'une solution. Je n'ai jamais vu un vivant ressuscité. Le pouvoir de la résurrection n'est accessible qu'à ceux qui sont morts d'abord. Et c'est peut-être là le plus dur. Pas de résurrection sans mort d'abord. Et lorsque nous pensons les uns aux autres à nos expériences spirituelles, nous pouvons peut-être nous retrouver dans ce passage où Ellen White mentionne que beaucoup ont été enterrés vivants dans le baptistère. Ils n'ont pas laissé là derrière ce moi, cet orgueil, cette nature humaine qui est précisément la barrière qui empêche le Seigneur d'aller suffisamment profond dans nos cœurs pour que sa parole trouve un écho. De quelle manière allons-nous être prêts au retour de Jésus ? Nous allons en parler, nous allons l'annoncer, nous allons le prêcher. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour croire que nous serons prêts pour l'événement dont nous parlons. Il faudra peut-être d'abord que le « moi » meure pour que nous puissions recevoir la puissance de résurrection qui n'est accordée qu'à ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Amen.